You're listening to the fucking Radio Giro.
Girol Radio Station. Et bienvenue, et bonsoir déjà, et bienvenue en direct du Centre d'Animation Saint-Pierre. Comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois, c'est l'heure de notre petite émission d'une heure autour des cultures libres. Autour de la table, notre ami Titoine. Bonsoir Titoine.
Bonsoir.
Simage. Bonsoir Simage.
Bonsoir.
Et Isa. Bonsoir Isa.
Bonsoir.
Et moi-même. Bonsoir Yorick.
Salut Yorick.
Salut.
Ce soir, on a un programme extrêmement chargé et une fois n'est pas coutume, nous avons préparé cette émission. Et oui, chez Girol, nous sommes capables de ce genre de choses des fois. Et du coup, on ne sait même pas si on va pouvoir tout dire en une heure parce que des choses, il y en a à dire. Je vous propose du coup un petit récapitulatif de ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors, question musique, on va parler de rien du tout. On va écouter surtout du 8 bits avec One Up Collectif. Vous les connaissez, ils sont déjà passés à l'antenne de Radio Girol pour nos 10 ans et en direct. C'est d'ailleurs fort génial. Et on va écouter un peu de punk. Hein. Ça aussi, une fois n'est pas coutume, hein. Change un peu de musique. Ça sera René Binamé. Voilà. Ensuite, on va parler d'un peu de hardware. On va faire le compte-rendu d'une mini-conférence qui s'est parlée à Bordeaux sur le Linux embarqué. Si les invités sont là, parce que du coup, il me manque toujours du Bonin.
Qui donne... Et Microchip.
Et Microchip. Ils doivent tous les deux nous en parler. Et ils sont toujours pas là. Donc, vont-ils venir? Ne vont-ils pas venir? On verra. On va parler de vie privée parce que notre gouvernement, il aime notre vie privée, hein, surtout savoir ce que l'on en fait. Et on va, vous vous en doutez, parler de ce fichier gigantesque qui va tout contenir, vos empreintes, votre nom, votre prénom, votre taille, votre âge, votre email, tout, tout. Du pain béni pour les pirates de tous bords. Nous allons parler ensuite de jeux vidéo parce que le mois a été riche en nouveautés. On va remercier le saint dieu Feral Interactive qui est passé, du coup, maintenant, qui a été canonisé par l'ensemble des joueurs Linux. On va aussi parler de Lutris qui avance même beaucoup et bien et qui promet encore des choses très, très nouvelles. Voilà. Je pense que c'est tout. On va pouvoir lancer la première rubrique qui n'a pas été annoncée. C'est l'agenda Girol, les choses qui se sont passées et les choses qui vont se passer. Alors, c'est Simage qui s'y colle et on va parler d'Unbi parce qu'il s'est passé quelque chose avec l'association Unbi.
Oui, alors moi, je vais pas faire tout l'agenda. Hein. Je parle juste d'Unbi et je me cache après. Je m'en vais de la radio.
C'est pas possible.
Non, c'est pas possible. Donc, Unbi, c'est une association mérignacaise.
Que l'on avait déjà rencontré lors d'un Open Bidouille Camp à Bacalan.
Tout à fait. Et qui se veut donc promoteur du logiciel libre. Et ils font aussi de la récupération de matériel et redistribuent ensuite le matériel dans un centre d'animation, centres sociaux, dans ce genre de choses. Donc ils aident des gens à installer des distributions sur des ordinateurs qu'ils ont un peu reconditionnés, on va dire ça comme ça. Et ils les donnent après aux personnes qui ont installé leur distribution avec eux. Voilà. Donc j'aime bien leur démarche, moi, le fait qu'ils fassent de la redistribution, qu'ils récupèrent du vieux matos, qu'ils remettent un peu en forme et qu'ils redistribuent. Je trouve ça sympa.
Et du coup, tu étais avec eux ?
Alors j'étais avec eux le samedi 26 octobre, si je me rappelle bien, à la découverte du libre. Donc après-midi de découverte des logiciels libres sur Mérignac, au centre d'animation, je crois, de Mérignac, si je me rappelle bien.
Il doit y en avoir plusieurs.
Centre d'animation, alors à Cap-Perron.
D'accord.
Voilà. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'était super. Il y avait le Labix avec J-Max qui était là, qui ont présenté des petits robots. Il y avait des ordinateurs en démonstration pour montrer des distributions Lubuntu, Xubuntu, Ubuntu. Et des installations, plus trois petites conférences. Alors la première, c'était sur pourquoi les logiciels libres. La seconde, c'était sur différents logiciels libres, des logiciels libres en particulier, GIMP et LibreOffice, si je me rappelle bien. Et la troisième, sur le matériel, mais je ne vous dirai pas qu'est-ce que c'était exactement, j'y étais pas.
D'accord.
Et on aurait pu gagner une imprimante 3D, mais je n'ai pas gagné d'imprimante 3D. J'étais très déçue, je voulais l'offrir au Labix.
C'est vrai qu'ils n'en ont pas au Labix.
Eh bien non, ils n'en ont pas à eux. Il y a des
morceaux de RepRap.
Ah non, mais il y a des adhérents du Labix qui ont des imprimantes 3D. Mais il n'y a pas d'imprimante 3D au Labix, vraiment, qui appartiennent au Labix.
Ça sera la prochaine fois alors.
Peut-être, j'espère.
Moi, il me semblait qu'il y en avait des imprimantes 3D au Labix.
Oui, mais elles appartiennent à des personnes,
adhérents.
Ah ouais. À des adhérents.
D'accord, voilà. Ok.
Qui, quand il y avait de l'espace, avaient laissé leurs imprimantes a priori dans le local, mais là, vu qu'ils ont un peu moins d'espace...
Ils les ont récupérés.
Voilà. Mmh.
D'accord.
Oh, il doit bien avoir des morceaux de RepRap, genre des moteurs papa ou ce genre de choses qui traînent quelque part dans le Labix. Non, pas ici, hein. C'est pas la peine de regarder autour de nous, ici on n'en a pas. Merci beaucoup, Simage, pour ce compte-rendu. Tu es toujours notre envoyé spécial. La deuxième info, cette fois-ci, c'est sur un événement à venir. Nous serons invités à animer une table ronde au Festival du film d'histoire de Pessac, ce samedi 19 novembre, en la présence de Florent Latrive, auteur connu des Libristes, notamment pour avoir écrit « Du bon usage de la piraterie », une ode à la culture libre et au partage. Nous serons aussi avec Cédric Favre, que nous connaissons déjà beaucoup sur cette antenne parce que nous l'avons reçu lors de nos émissions spéciales avec les bibliothèques de Saint-Augustin et du Grand Parc à Bordeaux. Et nous aurons aussi Rico d'Alvarest, web artiste. Alors, j'aime pas trop ce terme, c'est un artiste, je dirais moi, polyvalent, qui diffuse sa création sous licence libre. Voilà, ça sera donc dans le cadre du 19e, je crois, Festival du film d'histoire de Pessac. On se retrouvera là-bas et je pense qu'on va faire quelques petites interviews, notamment de Florent Latrive, parce que quand on a ce personnage-là en face, faut pas le laisser partir comme ça. Une petite interview, ça mange pas de pain et ça fait plaisir à tout le monde. Voilà. Et j'aurai du coup l'honneur d'animer cette table ronde et j'espère être à la hauteur parce que je vous cache pas que c'est quand même assez stressant. J'ai le trac là, tout d'un coup.
Mais non, faut pas.
Alors, on va justement profiter de ce moment pour faire une petite pause musicale. Je vous propose un morceau de René Binamé, petit morceau punk qui nous a été justement proposé sur le pad par Simage. On l'en remercie d'ailleurs parce que c'est vraiment pas mal du tout et on se retrouve après une petite pause musicale.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets. Sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. récolte. Les jours de fête, les fusils sur nous dirigés. Contre nos chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats.
C'était René Binamé, La vie c'est cool, le temps de l'album Le temps payé ne revient plus sur Radio Girol. Alors, on va traiter d'un sujet un petit peu plus sérieux que l'agenda. C'est une boulette de notre gouvernement, une grosse connerie, un truc que notre gouvernement aime beaucoup, dès que ça, surtout si ça concerne le numérique. Ils ont voté, si on peut appeler ça voter, parce qu'il n'y a pas eu de vote. Ils ont mis en place par décret le super méga fichier géant de 60 millions ou plus, puisqu'on doit être maintenant plus 66 millions, de gens honnêtes, à savoir, ils ont réuni deux fichiers, le fichier des passeports et le fichier des cartes d'identité en un, qui est un méga fichier qui contiendra, entre autres, votre nom, votre prénom, votre adresse, la couleur de vos yeux, votre taille, votre numéro de téléphone, votre adresse email et surtout vos informations biométriques. Ça a soulevé, bien entendu, un énorme tollé, deux raisons. La première, c'est qu'un fichier contenant autant de données centralisé, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, qu'elles soient d'un futur gouvernement ou qu'elles soient de pirates qui tentent de s'approprier un tel fichier. La deuxième, c'est que ce texte est passé par décret sans être avalisé par le Parlement, décidé unilatéralement donc par notre gouvernement au Conseil des ministres et poussé par notre fabuleux Premier ministre Manuel Valls. Voilà, et contre l'avis de bien des instances, Isa, tu me disais qu'il y avait eu pas mal de gens contre.
Le Conseil national du numérique a taclé l'affaire, hein, donc parce que évidemment c'est pas anodin. Donc oui, je suis pas assez près du micro. Ça y est, je viens de comprendre. Donc oui, le Conseil national du numérique s'est fendu d'une bafouille à laquelle Bernard Cazeneuve, lui-même en personne, himself, a répondu. Donc il reprochait le Conseil national qu'il n'y ait pas eu de concertation. Et de mémoire, parce que j'ai entendu les infos aujourd'hui, la ministre du numérique, dont tu me dis que ce nom, ce n'est pas Fleur Pellerin.
Non, c'est non.
Bref, je ne sais plus qui c'est.
Axel Lemaire, c'est pas Axel Lemaire ?
J'ai pas entendu ce nom-là. Hein. Bref, du coup, elle a pas aimé la blague non plus. Elle a trouvé que c'était pas très 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 sympa de l'avoir fait passer en loose day pendant le week-end de la Toussaint. Donc, Cazeneuve répond quand même qu'il y a eu une concertation quelque part, que tous les ministres ont signé, blablabla, etc., etc. Bref, il reprend point par point les accusations du Conseil national du numérique pour toutes les démonter, parce que de toute façon, on sent bien qu'ils n'ont pas envie de revenir sur l'affaire. La seule chose qui va être accordée, si on veut, c'est un débat parlementaire, mais sans vote.
Oui, c'est les choses que ce gouvernement a l'habitude de
faire.
C'est
un décret, effectivement, donc à moins de le retirer complètement et de repartir à zéro sur le débat. Voilà.
Donc, on a encore un fabuleux gouvernement qui prend des décisions de façon unilatérale. On connaissait déjà l'article 49.3. Maintenant, on a les décrets.
Ah, mais ça, c'est les décrets. C'est quand même assez courant.
Ouais.
Même voilà. Avant eux.
Mais alors, effectivement, ce que reprochait quand même beaucoup de monde, et notamment quelques parlementaires, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu une loi aussi importante qui met effectivement en jeu la vie du coup la vie privée, la vie de tous les Français. On parle bien de tous les Français qui ont en fait tous les Français qui ont une carte d'identité
ou un passeport. Moi j'ai les deux par exemple, voyez-vous. Donc, à un moment donné, si vous voulez sortir du pays, vous êtes un peu obligé d'en avoir au moins un, ça c'est sûr.
Si au moins la carte.
Si vous sortez de l'Europe, bah, les deux, quoi. Donc, le passeport aussi. Donc, au final, tout le monde, on va dire. Hein, parce que rien que pour faire des démarches administratives, je ne vois pas comment on fait sans avoir de carte d'identité. C'est un peu compliqué.
C'est, oui. Il faut avoir un acte de naissance toujours sur soi et certifié conforme par une mairie. Donc, sinon.
C'est pas facile, facile. Donc, je pense qu'effectivement, c'est quasiment tous les Français, à 1% près, quelque chose comme ça, qui doivent être concernés.
Alors, sachant qu'il y a des alternatives possibles, ce qui pose effectivement d'énormes soucis, c'est que les données biométriques soient effectivement présentes sur le fichier, voilà, de façon centralisée, qu'il y ait en plus toujours la photo, etc. Il y a quand même beaucoup d'informations. Sachant que il est tout à fait possible que ces informations biométriques soient présentes physiquement dans une puce implantée même dans le titre, c'est de la carte d'identité ou le passeport, plutôt que dans une base centralisée. C'est notamment l'une des propositions que fait François Pellegrini. Alors nous, ici, on connaît bien François Pellegrini parce qu'il est déjà bordelais d'origine. Il est enseignant au Labri, me semble-t-il. Antoine, tu confirmes ?
Oui, tout à fait.
Merci Antoine. Et que surtout, il a été président de l'association bordelaise des utilisateurs de Linux, la Bulle, qui est un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien GUL en France. Donc, il est quand même, voilà, c'est quelqu'un d'assez connu localement. Il a proposé sur son blog, pellegrini.cc, déjà, il s'insurge contre ce fichier. Pour info, il fait aussi partie de la CNIL, me semble-t-il, monsieur Pellegrini, ou du Conseil national du numérique. Je ne sais plus. On ira vérifier
ça. Je ne sais plus non plus. Si jamais, je l'ai su.
Voilà. Et où il dit, il propose effectivement de dire que ce genre de données n'a rien à faire dans un fichier centralisé. Autant les avoir dans une puce sécurisée avec un système de clés directement sur le transport. Parce que à quoi servent les données biométriques ? À s'assurer de deux choses. Un, authentifier du coup un utilisateur. Et deux, le cas échéant dans les cartes d'identité, de pouvoir attester que le détenteur de la carte est bien la personne mentionné sur la dite carte, c'est-à-dire qu'il l'identifiait. Voilà. Et il suffirait pour ça que les forces de l'ordre, par exemple, qui procèdent à un contrôle d'identité, passent la carte dans un lecteur et que par un système de clés de déchiffrement, qu'ils aient accès à cette information. Le cas échéant aussi, lorsqu'il s'agit de renouveler le dit document. Voilà. Et du coup, on ne mettrait pas tout un tas de données biométriques extrêmement personnelles à l'intérieur même d'un fichier.
D'une base de données.
Ou d'une base de données.
Donc, oui, effectivement, il y a plusieurs problèmes en fait, que pose ce fichier. J'entends de la musique.
On a de la musique.
Voilà. Il y a le problème, on va dire, de la concentration des données dans une base de données. Qui est un souci dans le sens où qu'est-ce qui va advenir de ce fichier ? Aujourd'hui, on est dans une démocratie, enfin, il paraît. Et voilà, on ne sait pas ce qui peut advenir dans les années qui viennent. On voit très bien ce qui se passe aux États-Unis et dans plein d'autres pays qui nous entourent. Les populismes sont à l'œuvre. On joue sur la peur des gens. Bah, d'ailleurs, ce gouvernement le fait aussi. Donc voilà, est-ce qu'on va tous devenir à un moment donné suspects de quelque chose ? Et du coup, ça sera très facile de venir nous tacler puisqu'on sera fiché dans cette merveilleuse base de données.
Exactement. Il
n'y a rien à faire qu'à appuyer sur un bouton.
Il en parle notamment dans son blog. Il donne l'exemple de pourquoi pas dans un futur.
Du hacking, du piratage. Bon, ok, mais certes, puisqu'en fait, on nous dit que c'est ultra sécurisé et que rien ne peut passer au travers, à part les institutions qui le gèrent, ce que nous savons très bien, nous, que c'est faux, hein, qu'à un moment donné, tout peut se pirater. Il suffit que le temps fasse son œuvre. Donc voilà, ça c'est aussi un problème. Mais c'est celui qui est toujours le plus mis en avant par les médias, je trouve ça dommage.
Alors, sachant qu'une autre enquête, du coup, enfin, un autre scandale politico-médiatique vient corroborer toutes ces accusations et ces craintes. C'est l'affaire Sarcini, ce directeur, ce grand ponte des renseignements, qui a emmené quelques devoirs chez lui et quelques fiches, notamment de gens puisés allègrement dans les bases de données du renseignement pour pouvoir alimenter ses petits copains de Sarkozy et compagnie. Du coup, voilà, il a joué le barbouze, il a amené quelques petits devoirs chez lui, alors que c'est normal, ça doit normalement être.
Et surtout qu'il était faisait plus partie des murs, non?
J'ai pas vu entièrement, effectivement. Voilà, on l'appelle le maître espion des réseaux sarkozistes. Et on sait que notre ancien président, qui espérons-le ne redeviendra pas président, a usé des stratagèmes et de ses compagnons disséminés un peu partout dans les étages de la hiérarchie au niveau national pour pouvoir glaner quelques renseignements ci et là ou l'aider dans quelques affaires. Et Sarcini en faisait malheureusement partie, sauf qu'il s'est fait choper. On se dit que si actuellement c'est déjà le cas avec les moyens là, qu'ils ont, avec un super fichier national des TES, qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce qu'ils vont réussir à sortir comme information? Et à partir de... Et qu'est-ce qu'ils vont recouper?
Parce que, comme tu dis, le fait de recouper aussi, on n'y pense pas, parce que c'est un fichier, c'est un méga fichier dans lequel il y a des informations extrêmement... personnel avec lequel ils peuvent aussi faire des recoupements. Donc il suffit d'avoir d'autres fichiers qui ne sont pas forcément déclarés d'ailleurs. Puis bon, on sait très bien que certains sont très doués pour faire des fichiers et ne pas les sécuriser sur Internet. Hein, moi, j'ai quelques souvenirs d'articles de reflet.info qui sont assez croustillants sur ce que fait par exemple l'UMP avec ses propres députés d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Enfin bon, bref, ce genre de petits détails. Donc voilà, des gens qui font n'importe quoi et qui sont au pouvoir, ben, il y en a eu, il y en aura encore et il y en a toujours.
Voilà. En tout cas, on se dit que si jamais Marine Le Pen accède à la présidence en 2017, on est dans de beaux draps tous.
Je n'ai qu'une chose à dire sur le sujet. Ah.
Ah, c'est ça. Bon, je vous propose une petite pause musicale. On se retrouvera après pour continuer notre petite émission de ce soir. Je vous propose du René Binamé encore. Et pour clore ce sujet politique, quelques mots sur le cirque électoral. Roger Binamé sur Radio Girol.
Pas indispensable à la prospérité du capital. On ne nous les servirait pas partout, toujours, à coups de fric, à coups de flic. N'était pas le meilleur antidote contre nos grèves et nos révoltes. On ne nous la scènerait pas à tous les coups, à coups d'assemblée syndicale. L'électoral n'était pas si propice à l'extension du marché. On ne nous le parachuterait pas en casque bleu, sac de riz à la main, mitraillette à l'épaule. We'll be right back. quelques politiciens ne suffit plus à nous faire parler, à nous faire taire. On maintient l'ordre à coups de sabre. On lâche la bride à la flicaille. On lâche la bride à la flicaille.
Hé, petit champignon, t'as pensé à télécharger l'application Radio Girol sur ton téléphone mobile?
Ça s'appelle Radio Girol, c'est sur le transport.
Et nous voilà de retour sur Radio Girol. On change un peu les invités. Alors, on a autour de la table J-Max. Salut J-Max.
Bonjour à tous.
Qui se réchauffe, qui essaye de se réchauffer les mains en soufflant dedans parce qu'effectivement, il en skye un petit peu là.
Non, pas ici.
Là, ça va. Et FX, bonsoir FX.
Salut.
Alors, ça tombe bien, vous êtes arrivés pile poil parce qu'on avait dans notre programme la conférence Linux embarquée qui s'est passée à Bordeaux, me semble-t-il, non?
Ouais, c'était le mois dernier, il y a il y a 15 jours, 3 semaines.
Ouais, 15 jours. Alors, on devait avoir Duponin qui devait du coup aussi nous en parler un petit peu, mais il n'est pas là. C'est bien dommage. Alors, qu'est-ce que c'était que cette conférence?
Un petit gars là, Pierre Texier, en fait, qui est intervenant notamment à l'école de l'Estey, qui est une école qui fait de l'embarqué et qui touche pas mal sa bille en fait sur Linux Embedded, Linux embarqué sur Yocto et Buildroot et ce genre de trucs. Il bosse pas mal sur des plateformes genre Warp 7 notamment. Il a écrit un article là dans le dernier Open Silicium et il voulait monter cette espèce de groupe Linux embarqué. Et donc il a fait une petite présentation de pas mal de matos et après il avait invité Pierre Ficheux pour nous présenter en fait les noyaux temps réel sous Linux.
Les noyaux temps réel, le même type de noyaux temps réel qu'on utilise là sur notre studio radio.
Ouais, ceux-là.
Sauf que je suppose adapté à l'embarqué.
Pas forcément, non. C'est du noyau temps réel. Alors, c'est beaucoup utilisé en embarqué. Et ce qu'on utilise en MAO, c'est pas de l'embarqué, mais c'est quand même du noyau temps réel avec des. C'est préempteur T, donc c'est une des solutions qui a les moins bons rendements, mais qui n'a pas besoin d'avoir des rendements super fous, en fait.
Oui, parce que là, on a des machines de fous et souvent, le noyau temps réel peine, des fois, à traiter les données en temps réel. Hein.
Ouais.
On lui en demande peut-être un peu beaucoup.
Il faut peut-être préciser ce que c'est que le temps réel.
Oui, alors je t'en prie, vas-y.
Alors, le noyau Linux est un temps réel mou. Il est tout mou.
Parfois, ce n'est pas très flatteur de dire que c'est tout mou.
En fait, on ne garantit pas les temps de lecture. Imaginons qu'on veut faire une lecture toutes les millisecondes, toutes les 10 millisecondes. En fonction de la charge du CPU, on va avoir du retard. Pour un système classique, c'est pas gênant. Par contre, un temps réel dur va nous certifier qu'on va faire une lecture toutes les X millisecondes.
C'est un peu, peut-être, c'est un peu suivant le matériel, ça peut être très difficile à tenir, je suppose, comme engagement.
Oui, après, c'est le boulot de l'ingénieur de qualifier son matériel en fonction de la charge demandée.
D'accord. Et alors, le temps réel mou, qu'est-ce qu'il fait du coup?
En fait, le système se permet une liberté. S'il n'a pas le temps, il fera l'acquisition plus tard.
D'accord.
Voilà, c'est pour ça qu'on l'utilise dans la MAO, parce qu'il y a des histoires de... il faut que les signaux soient captés en temps réel pour être retransmis en temps réel et faire leur boulot en temps réel. Quand on appuie sur une touche, on aime bien quand ça répond tout de suite. Et c'est aussi utilisé dans tout ce qui est électronique embarquée, notamment les capteurs sur les voitures, les avions et compagnie, où on a besoin d'avoir précisément, par exemple, le système de freinage assisté d'une voiture. Il a besoin de savoir quelle est la vitesse, quelle est la masse, le déplacement sur la voiture en temps réel, quoi. Le système ne peut pas dire « Attends, deux secondes, là, je suis en train de traiter un fichier, on va voir ça après. »
Non. Oui, sinon, c'est l'arbre assuré.
Sinon, c'est l'arbre, le dérapage, l'aquaplaning, tout ce que tu veux, le mur.
D'accord. Et donc, on vous avait parlé de ça, il était entre autres question de temps réel, mais quoi d'autre du coup? Tu as parlé de plein de trucs bizarres, de cartes, je crois, de warp, de...
Ouais, alors le premier intervenant, c'est Pierre-Jean Texier. En fait, lui voulait monter ce groupe pour voir s'il y avait des hobbyistes ou des professionnels ou même des gens un peu entre les deux qui aurait aimé se regrouper en fait pour venir en parler, faire des ateliers, des petites conférences, des choses comme ça. Donc il a créé un meet-up. Il attend qu'il y ait du monde qui se bouge pour venir. Il a marqué un premier coup assez fort en réussissant à avoir Pierre Ficheux, qui est quand même une... Enfin, c'est une petite sommité. C'est pas la première fois que je le vois en conférence. Avec JMAX, on l'avait vu il y a un an pour parler de Xenomai, donc un noyau temps réel encore. C'est une petite sommité. Enfin, voilà. Et lui, il avait présenté en fait plein de cartes à moyen bas coût. C'est-à-dire entre quelques dollars, genre une dizaine à peine, et 100, 150 euros, pour dire bah, voilà, y a déjà y a toutes ces plateformes qui tournent généralement sur des processeurs ARM, toutes ces plateformes-là qui peuvent être utilisées pour pas trop cher, pour réussir à fabriquer des projets rigolos. L'exemple le plus connu étant le Raspberry Pi. Et après, on retrouve d'autres machines comme bah, la Warp 7, sur laquelle il a écrit un article dans le dernier Open Silicium.
Voilà, l'article que tu mentionnais tout à l'heure. Effectivement, voilà. On assiste ces derniers mois, ou même ces dernières années, depuis l'avènement du Raspberry Pi premier du nom, à une multiplication des cartes. Alors avant le Raspberry Pi, il y avait les BeagleBoard que tu nous as déjà montrés ici et que tu utilisais déjà JMAX. Maintenant, on a les Cubiboard, les machins trucs, voilà, et même le Raspberry Pi lui-même se décline en version mini. Voilà, donc c'est du matériel qui rencontre un franc succès, non ?
Ben ouais, parce qu'il y a plein de projets intéressants à différentes échelles, comme le Raspberry Pi, qu'on peut dire embeddable, enfin, on peut le mettre dans une petite boîte et puis l'embarquer dans un sac, jusqu'aux cartes comme la Warp 7 qui sont carrément, on dit des wearables, parce qu'on peut, si on a un col assez large, on peut le coudre dans un col, par exemple. C'est une carte qui fait 3 cm sur 4, un truc comme ça.
Un peu comme le Raspberry Pi 0, en fait.
Je vois pas cette machine, mais...
Plus petit encore.
Encore plus petit.
Mais il n'y a pas de gestion d'écran, on ne peut pas brancher un HDMI.
Ça se rapprocherait plus, pardon, de l'Arduino, du coup. En plus puissant.
En plus puissant. Là, on a un vrai module noyau. On peut faire de l'accès SSH. On peut mettre des scripts. On peut monter du Python, monter du Node.js. Alors que l'Arduino, on est limité sur du langage C.
D'accord.
Voilà, l'Arduino, c'est un petit processeur. C'est même, ouais, c'est un microcontrôleur, en fait. On ne peut pas vraiment mettre de noyau dedans.
Oui, puis tu as très peu de mémoire. Tu es très limité en mémoire pour pouvoir y écrire des programmes qui font quelques... 2 kilooctets. Donc c'est très peu.
Alors que là, on peut parler de plusieurs mégas, plusieurs centaines de mégas, voire quelques gigas pour certaines machines. Moi, j'ai en tête l'Intel Edison sur lequel j'avais bossé, qui fait la taille d'une carte SD et qui a 4 gigas de stockage et 1 giga de RAM qui embarque du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. et qui fonctionne avec une pile de 1,5 V, quoi. Enfin, la pauvre pile LR6 qu'on a dans les télécommandes.
Oui, parce que du coup, l'adage qui dit que plus c'est petit, moins ça consomme, se vérifie largement là.
Alors, ça peut fonctionner avec une pile comme ça, mais ça consomme quand même. C'est-à-dire que plus il y a de calculs, plus ça consomme quand même.
Mais par rapport même à un Raspberry Pi, je suppose que la consommation est moindre. Non ?
Ça dépend ce qu'on va faire avec le Raspberry.
Ça dépend ce qu'on va faire avec Edison.
La consommation est vraiment liée à l'utilisation de la carte. Plus on va lui en demander, plus elle consommera.
D'accord. En tout cas, si on revient à notre conférence Linux embarquée, quel avenir maintenant ? Parce que tu disais que le but, c'était de réunir tout un tas de gens pour voir ce qui va se faire après. Et maintenant, on y est dans l'après ?
Je sais pas, j'ai pas été revoir encore. Il y a un groupe meet-up Linux Embedded qui s'est monté. J'ai fait une petite remarque à la fin de l'intervention de Pierre-Jean Texier, parce qu'il disait bon, ben voilà, moi j'attends un après, donc manifestez-vous, venez voir. Et je lui ai demandé, parce que la conférence avait fatalement lieu un mardi, donc je lui ai dit ben écoute, tu parles de Linux. Hein, t'es fan d'open source et de Linux, et le groupe s'appelle Linux Embedded, tout est dit. Je pense qu'il serait sage, si tu veux te donner un avenir, que tu planifies en fait tes ateliers, pas un mardi.
C'est peut-être pas forcément. Alors, c'est... on a sûrement du public en commun, mais pas que. Hein. Après, on fait chacun fait comme il peut.
Regarde, il y, y a bien le Labix qui se réunit aussi le mardi. Donc bon.
On va finir par tous acheter un immeuble et se mettre tous dans un même immeuble le mardi. Ce sera le supermarché du logiciel libre et du do it yourself.
Ouais. On pourrait commencer par squatter un immeuble, réquisition auprès des pouvoirs publics. Tout voilà, mairie de Bordeaux. Bonjour.
We are Légion. We are Linux.
Ouais. Mais mon souvenir ému à Maître Casimiro, si vous m'entendez, c'est l'huissier de justice de la Cube.
Bon, merci beaucoup en tout cas pour ce rapport. On attend de vos nouvelles bientôt du coup pour nous dire les choses qui se passent après. En tout cas pour ceux qui sont intéressés, Linux, alors j'arrive jamais à le dire, Embedded.
Très bien.
Voilà. Bordeaux, je suppose.
Voilà, sur Meetup, tu tapes Linux Embedded Bordeaux. Voire même pas, si le meet-up te localise, tu vas tomber dessus.
Nickel. Et on se tiendra au courant. Pour l'instant, on va faire une courte pause musicale et on va atteindre le dernier sujet de la soirée, à savoir le jeu vidéo. Il y en a beaucoup à dire là. On va parler de Lutris, entre autres, si notre ami Strikor est dans les parages. En attendant, on s'écoute un morceau du One Up Collective, Cool Set, sur Radio Girol. Alors, apparemment, on a encore un souci technique avec la radio, puisque vous n'entendez pas la musique. Voilà, j'espère juste que vous entendez les paroles. Allo, Strikor, est-ce que vous êtes là? Parce qu'on a fait des bonnes émissions jusqu'à présent, mince.
C'est enregistré au moins?
Je vais voir, je sais pas. Je ne sais pas. Mais apparemment, on diffuse. Donc, de retour sur Radio Girol, on va atteindre la fin, la dernière ligne droite, les 10 dernières minutes, et on va parler de jeux vidéo comme à chaque fois sur Radio Girol. Je vais sûrement être le seul à parler. Il va peut-être avoir Strikor qui va me dire deux, trois petites choses. La première grande chose à annoncer, c'est... FX, tais-toi, tu y parles devant le micro. C'est bon, tu peux parler. Tu ne parles plus devant le micro. Alors, la sortie de Lutris 0.4. Voilà, Lutris continue son petit bonhomme de chemin. Et même là, son grand, grand bonhomme de chemin. Quelques petits changements sur le cap, sur voilà, quelques petits liftings, mais surtout un gros changement sur le capot. Parce que ça y est, Lutris passe à Python 3 par défaut pour la version, comme langage utilisé. Et c'est pas rien, parce que les différences entre Python 2 et Python 3 sont assez énormes. Et donc, je suppose que derrière, il y a eu un gros, gros travail de Strikor et de tous les contributeurs à Lutris pour changer tout ça. L'autre gros, gros changement sur Lutris, c'est l'utilisation de LibRetro RetroArch pour la partie émulation. Voilà, ça marche, certaines choses commencent déjà à fonctionner et on parle pour une prochaine version de supprimer certains émulateurs qui semblaient plutôt buggés et qui ne correspondaient plus aux standards désirés par l'équipe de Lutris en termes du coup de fiabilité. Voilà, on parle notamment de Mega Defend, Degen, Mepen 64+, et PCSRX, à savoir des émulateurs Mega Drive, Nintendo 64 et PlayStation première du nom. Voilà. Donc beaucoup de changements, voilà, et ce n'est les changements, d'autres changements à venir, voilà. À noter toutefois que si vous voulez aider au financement du développement de Lutris, l'équipe a mis en place une page Patreon pour pouvoir contribuer, filer du pognon, voilà. Sinon, tous les renseignements sur lutris.net, https://lutris.net, et vous pouvez contacter Strikor directement sur l'IRC de Girol, parce qu'il y est tout le temps, entre autres. Hein, c'est Strikor sur Dies Girol. Voilà. Ah oui, on me dit que c'est Mega Defen, et pas, je ne sais pas ce que j'ai dit comme connerie, mais bon. Voilà. Pour rappel, du coup, à nos auditeurs, Lutris est un système, une espèce de comment dire, une application, une interface graphique qui permet d'installer facilement tout un tas de jeux sous Linux, qu'ils proviennent de votre bibliothèque Steam compatible Linux ou Windows, qui proviennent de d'autres magasins de jeux. Comme GOG ou comme Humble Bundle, mais aussi des jeux que vous pouvez avoir sur CD via l'émulation Wine et tout un tas de jeux émulés sur toutes les plateformes, enfin tout un tas de plateformes diverses et variées. Voilà, voilà. Autre news, et pas qu'un peu, sur le jeu sous Linux, c'est que ça bouge depuis le dernier mois. Rappelez-vous, on annonçait déjà le mois dernier la venue de... Mad Max, le jeu sorti en 2015 et qui nous avait été promis à sa sortie par sous Linux. On avait depuis plus eu de nouvelles. Le jeu était sorti septembre 2015. Nous n'avions plus de nouvelles et ça y est, nous en avons eu puisque Feral Interactive à la fin de ce mois-ci l'a sorti officiellement sous Linux. Pour ma part, j'ai testé et ça fonctionne plutôt très bien. Bon, comme d'habitude, il y a une légère baisse de framerate à machine égale sous Windows par rapport à la version Windows, mais le principal, c'est de pouvoir jouer sous Linux. Feral Interactive a été d'ailleurs très très actif ce mois-ci puisqu'ils ont sorti notamment un jeu Warhammer Dawn of War 2, enfin toute une série de jeux parce qu'il me semble qu'il y en a 3 disponibles aussi sous Linux. Alors je vous en parlerai pas plus parce que personnellement ce n'est pas du tout mon type de jeu, mais voilà, c'est que du bon. Et ils ont aussi sorti la semaine dernière Deus Ex Mankind Divided, la première apparition de la série Deus Ex sous Linux. Le précédent Opus Human Revolution était apparu sur Mac, mais pas sur Linux. Là, ça y est, la version d'ailleurs Linux se paye le luxe de sortir avant la version Mac qui, elle, attendra début 2017 en cause la stabilisation de l'API Metal utilisée pour la conversion. Hein, Metal, pour rappel, est une API graphique au même titre qu'OpenGL, DirectX ou Vulkan. Metal est disponible seulement pour macOS parce que, bien entendu, ils aiment faire les choses à leur sauce. Voilà. C'est que du bon. Deus Ex est un jeu extrêmement gourmand. Pour ma part, j'ai été obligé de mettre à jour ma machine pour pouvoir y jouer correctement. J'ai pas une machine dégueulasse puisque j'ai à la base un Intel i5 4460 et une GTX 1070. J'ai été obligé de passer ma RAM à 16 Go, sans quoi le jeu au niveau maximum de détail ramait lourdement. Voilà, le passage à 16 Go de RAM a bien du tout fluidifié tout ça. Sachant que j'ai vu certains tests qui disaient que effectivement le processus Deus Ex sur leur machine prenait allègrement plus de 8 Go de RAM, en plus de prendre énormément de RAM graphique. Le jeu, bon, je l'ai déjà fini sur PlayStation 4, est un jeu énorme. Il est vraiment sympa. On reste quand même sur la fin au niveau du scénario. Parce que du coup, on a l'impression d'avoir juste une bribe d'un jeu complet, une espèce d'épisode d'une série. Et c'est un peu dommage parce que la durée de vie est quand même assez conséquente, surtout si on s'attaque à faire toutes les petites missions annexes de ci et là. Voilà. Strikor me dit d'ailleurs sur l'IRC qu'il y a une review sur, alors je ne me rappelle plus le nom, LGCW, on en a déjà parlé ici, Linux, je ne sais plus. Vous utilisez Isa ?
Linux Game ?
Oui, je ne sais pas. Il y a Wednesday, Lilcast, il y a un truc de Wednesday, ouais, c'est un podcast, une vidéo qui est fait tous les mercredis. Voilà, par Strikor et par d'autres. D'ailleurs, il va peut-être m'aider et me le sortir là sur l'IRC, ça serait cool. Ouais. C'est ça, Linux Gamecast. Voilà, merci Strikor. Voilà, une review en anglais. Voilà. Et d'ailleurs, toi Strikor, comment il tourne chez toi Deus Ex voilà, Linux Gamecast Weekly. C'est ça, merci Strikor. Voilà, au niveau news jeux vidéo, donc il n'y a quand même que du bon, ça bouge pas mal sur notre plateforme. Hein. Rappelez-vous qu'il y a, de ça maintenant 3 ans, il n'y avait rien ou pratiquement rien. Et maintenant, ça bouge pas mal, on a de plus en plus de jeux. Et du coup, Deus Ex, sorti au mois d'août, je crois, ou septembre, je ne sais plus, arrive quelques mois après sous Linux, avec une qualité quand même qui est là. C'est un bon plan, sachant que... peut-être, je dis bien peut-être, aurons-nous droit un jour à une version Vulkan parce que Feral Interactive a avoué dans la semaine travailler d'arrache-pied sur l'API Vulkan pour proposer des portages de jeux Windows vers, enfin PC Windows vers Linux en utilisant cette API graphique à l'avenir. Donc on pourra peut-être y avoir droit. Alors on me dit que... Alors, sur Strikor, il tourne bien mais en médium. Alors oui, mais quelle est ta config du coup pour le faire tourner en médium ? Alors, il me semble que tu as une GTX 970.
Oui, mais tu vas avoir un peu de lag hein, pour la réponse.
Exactement.
Oui, donc il précisait que le Linux Gamecast qui traite des jeux, c'est celui du samedi.
Ah.
Ah bon, un téléphone
qui sonne.
Le lointain.
En tout cas, voilà. Ouais, c'est GTX 970 et c'est ça qui limite, effectivement. Mais je te rassure, hein, moi, c'était la RAM et de toute façon, même en ultra, en fait, je sacrifie. Enfin, un framerate un peu moyen, ça me convient puisque n'oublions pas que je jouais sur PlayStation 4. Donc, j'étais souvent limité à 30 images par seconde. Donc, bon, on va dire que pour moi, ça passe, même si pour certains, ça accrocherait l'œil du coup. En tout cas, il est temps de se quitter. Nous, on vous donne rendez-vous du coup le 19 novembre pour le festival du film d'histoire de Pessac, où on animera une table ronde autour des cultures libres. En attendant, la prochaine émission, ça sera au mois de décembre. Et oui, déjà, on se donne rendez-vous le mardi 13 à 19h pour une émission en direct. On essaiera de refaire comme cette fois-ci, de préparer un petit peu.
Oui, ça marche. Hein.
Ça marche, c'est cool. Hein. Parce que du coup, il est pile poil le temps de s'écouter un dernier petit morceau de One Up Collective et ça sera l'heure de se quitter.
Et oui, voilà.
Voilà. En espérant que la musique marche cette fois-ci. Voilà.
Ça serait... Surtout que tout ce qui a été dit précédemment. Hein.
On verra, on ira écouter le podcast et on verra. Voilà, voilà. En attendant, on va s'écouter Nanoloop sur Radio Girol. C'est le collectif, One Up Collective, pardon.
c'est.